Liturgie de la parole de ce jeudi 15 janvier 2026, jeudi de la première semaine du temps ordinaire, année Père. Béni soit le Seigneur, soleil levant, lumière d'en haut, qui vient nous visiter. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Dieu qui a séparé la lumière et les ténèbres, toi qui as appelé la lumière jour et les ténèbres nuit, arrache aussi nos cœurs à l'obscurité du péché et fais-nous parvenir à la vraie lumière qui est le Christ. Lui qui vit et règne pour le siècle de siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc.
Gloire à toi, Seigneur.
Au premier chapitre du 40e au 45e verset. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tombant à ses genoux lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans des endroits déserts. De partout cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers auditeurs, chers internautes, jeudi de la première semaine du temps ordinaire, année Père. Dans la première lecture, tirée du premier livre de Samuel, 1 Samuel 4, de 1b jusqu'à 11. Israël ne comprend plus grand-chose à son destin. Dieu reste mystérieux. Il est tout-puissant, mais ce qui arrive à Israël donne l'impression que Dieu est loin de son peuple. C'est une impression que le peuple peut avoir. Dans la bataille contre les Philistins, le peuple d'Israël a été battu. Le peuple s'est dit, faisons venir l'arche de l'Alliance, symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Avec l'arche de l'Alliance, nous allons gagner la guerre. Et pourtant, ce sera catastrophique. Israël sera de nouveau battu à plate couture et l'arche de l'Alliance portée disparue. Israël n'y comprend rien. Il y a deux leçons à retenir de cette première lecture. Dieu veut d'abord montrer à son peuple qu'il est le Dieu de tout le monde. Il n'est pas seulement le Dieu des Juifs, mais aussi le Dieu des Philistins. Et les Juifs comprendront cela petit à petit, à travers ses échecs, à travers ses défaites militaires. Ils vont comprendre que perdre la guerre alors qu'on a l'arche de l'Alliance ne signifie pas que notre Dieu est moins puissant que le Dieu des Philistins, le Dieu des Hittites, des Sumériens, des Babyloniens. Perdre la guerre signifie tout simplement que notre Dieu est aussi leur Dieu. Voilà pourquoi il peut permettre que les adversaires des Juifs puissent gagner la bataille, parce que ceux que les Juifs considèrent comme adversaires sont aussi les fils de Dieu. Ils vont comprendre ainsi que Dieu veut que tout le monde soit sauvé, l'universalité du salut. Ça, c'est la première chose. Dieu est le Dieu de tout le monde. La deuxième chose, ils ont utilisé l'arche de l'Alliance de façon un peu comme un instrument au service de leurs désirs. Alors que l'arche de l'Alliance est d'abord un objet sacré qu'il faut vénérer. Mais et ils ont utilisé cela comme un instrument qui doit être au service de leurs désirs. Voilà pourquoi ça ne marchera pas. Des objets sacrés sont à respecter. Les sacramentaux, dirait-on aujourd'hui, sont à respecter. Que de fois certains utilisent des sacramentaux pour servir parfois leurs désirs les plus mesquins. Il y en a parfois qui utilisent l'eau bénite pour asperger de façon que ça puisse porter préjudice à la vie du voisin. On va asperger, par exemple, devant la maison du voisin, dans l'espoir que, voilà, s'il est dans l'occultisme, dans le noir, le malheur va lui arriver. C'est un peu ce que les Juifs font. Un objet sacré qu'il faut vénérer, ils vont s'en servir pour leur désir. Ils veulent la victoire. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Dieu ne veut pas qu'un peuple gagne contre l'autre. Dieu veut que tout le monde gagne. Et la victoire de tout le monde, c'est tout simplement la fin de la guerre, la paix. La paix, c'est la victoire. Dieu ne veut pas qu'un peuple gagne la guerre et une autre perde. Dieu veut simplement que la guerre cesse et que règne la paix. Que tout le monde soit victorieux. Et on est tous victorieux lorsque on abandonne la guerre, on dépose les armes et puis on se met au service de la paix. On se met à construire la paix. C'est ça ce qui est plus important. La première lecture nous montre donc que notre Dieu, ce n'est pas un guerrier. Voilà pourquoi ils ont l'arche de l'Alliance, mais vont perdre la bataille. Parce que ce qui est important pour Dieu, c'est la paix, c'est pas la guerre. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons clairement que Jésus est vraiment celui qui est envoyé par le Père. Ce que veut le Père, c'est ce que Jésus veut. Ce que fait le Père, c'est ce que Jésus fait aussi. Comme je disais tout à l'heure, notre Dieu, c'est pas un Dieu guerrier, c'est pas un Dieu qui voudrait que un peuple gagne contre l'autre, mais c'est un Dieu qui veut que tout le monde gagne, que tout le peuple soit gagnant, victorieux, c'est-à-dire que règne la paix et que tout soit bien. Voilà pourquoi Jésus, dans les évangiles, ne combat jamais des êtres humains. Il n'est pas venu pour combattre des hommes, pour que certains soient victorieux contre les autres. Non, il est venu pour combattre le mal qu'il y a dans le monde, le mal qu'il y a dans tout homme. Ça, c'est la mission de Jésus. Jésus n'est pas venu pour consacrer la victoire de certains contre les autres. Non, on ne peut pas prier comme cela. Voilà pourquoi dans la première lecture, on nous montre que l'arche de l'Alliance ne va pas apporter la victoire chez les Juifs, parce que notre Dieu, ce n'est pas ce Dieu-là qui nous pousse à prier, qui interviendrait dans notre vie contre nos adversaires, non. Parce que nos adversaires sont aussi ses enfants. Nous sommes tous les enfants de Dieu, les fils de Dieu. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas prier contre les gens. Nous devons prier avec et pour. C'est toujours comme cela. Même si quelqu'un t'a causé beaucoup de tort, il faut prier. Non pour que sa vie soit détruite, il faut prier pour que le mal qui est en lui soit vaincu. C'est ce que Jésus fait dans l'Évangile. Jésus est venu combattre le mal. Et le mal apparaît dans l'Évangile sous l'appellation de la lèpre. La lèpre est quelque chose de symbolique. À l'époque de Jésus, c'est terrifiant. C'est une maladie qui est fatal, qui attrape la lèpre, eh bien, a peu de chances de s'en sortir. Mais Jésus guérit la lèpre miraculeusement. Les lépreux étaient mis à l'écart. Ils vivaient en dehors de la société, en quarantaine. Mais on leur exigeait ceci. Lorsque un lépreux voit les gens venir vers lui, par inadvertance. Il est quelque part, caché quelque part, si les gens ne savent pas que le lépreux est là et qu'il s'approche du lépreux, le lépreux doit crier « impur, impur » pour que les gens s'éloignent. C'est-à-dire, il n'a plus de contact avec les gens. Donc la lèpre, c'est symbolique, c'est tout ce qui nous sépare des dieux et des autres, tout ce qui nous éloigne des autres. La lèpre du péché, notamment. La lèpre du péché nous divise. Nous divise de nos familles, de nos amis. Nous éloigne aussi de Dieu. Voilà pourquoi la lèpre est symbolique. Les lépreux, comme je disais, s'éloignaient de la société. Ils n'avaient pas de contact avec d'autres humains. Et encore moins avec Dieu, parce qu'ils ne pouvaient plus entrer au temple, ni à la synagogue, donc ils étaient abandonnés de tous. Mais ce qui est intéressant dans l'évangile, c'est que ces lépreux s'approchent de Jésus, contre toute attente. Ça veut dire que le Christ ne refuse personne. Il est prêt à accueillir tout le monde. Même vous qui êtes peut-être abandonné par les vôtres, vous qui êtes à l'hôpital, vous qui nous suivez en ce moment à partir des hôpitaux, à partir des prisons, vous qui souffrez, vous qui vous sentez abandonné par vos familles, par les vôtres, vous êtes en prison, au début on venait vous rendre visite, et puis depuis un certain moment, bon, ils ne viennent plus, ils sont fatigués. De même aussi à l'hôpital, vous avez passé beaucoup, plusieurs semaines à l'hôpital et finalement, les gens sont fatigués. Ils viennent de plus en plus rarement pour vous voir. Eh bien, sachez que même si vous vous sentez abandonné, il y a quelqu'un qui ne vous abandonne pas. Quel que soit votre état, vous êtes peut-être un criminel. Voilà pourquoi vous êtes en prison. Dieu ne vous abandonne pas. C'est Dieu qui accueille le lépreux, n'abandonne personne. Parce que nous l'avons célébré à Noël comme Emmanuel. Dieu avec nous, il est avec tout le monde, avec les pécheurs, avec ceux qui souffrent la lèpre du péché. Il est là. Et c'est le Dieu qui peut tout pourvu que nous puissions lui demander ce que il veut, pourvu que nous puissions lui demander que s'accomplisse sa volonté. C'est ça la différence entre les lépreux de l'évangile et les juifs de la première lecture. Les juifs de la première lecture voulaient ce qu'eux voulaient. Ils voulaient leur volonté. Leur volonté, c'est de gagner la guerre. Au lieu de demander au Seigneur que s'accomplisse sa volonté, la volonté de Dieu aurait été non pas gagner la guerre, mais déposer les armes, dialoguer pour que vous soyez en paix avec les Philistins. C'est ça ce qu'aurait été la volonté de Dieu. Mais eux, ils ont voulu faire leur volonté. Et voilà ce qui est arrivé. Ils perdent la guerre et puis l'arche de l'Alliance est partie. Mais dans l'Évangile, les lépreux demandent la volonté de Dieu. Seigneur, si tu veux, tu peux me purifier. Ça, c'est la meilleure prière qui puisse exister. Se soumettre à la volonté de Dieu, c'est la prière que le Seigneur aime. Et en demandant l'accomplissement de sa volonté, nous serons exaucés et le Seigneur nous donnera des bonnes choses. Parce que tout ce qu'il veut pour nous, c'est pour notre bien. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde sous sa constante protection. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.